Chapitre 17. Vainement, Célanée attendit le mot que Marichette devait lui dire, ou le signe qu'elle devait simplement lui faire pour accepter sa proposition. Ni mot ni signe ne vinrent. Les réflexions, les tentations ne parurent point agir sur l'esprit de l'idiote. Elle se montrait plus sombre, plus accablée, voilà tout. Pendant les premiers jours, cette tristesse et cet accablement avaient donné bon espoir à Célanée. « Elle a du mal à se décider, se disait-elle, mais ça ira, mes paroles ont porté. » Mais, voyant que ça n'allait pas, elle n'avait pas eu la patience d'attendre que ce mot ou ce signe vinsse spontanément, et elle avait voulu aider à leur manifestation. « Ce n'est pas seulement pour Paulin, ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas seulement pour nous que ta grossesse est une chose terrible, c'est encore pour ton enfant. » Avec un père comme ce misérable Simon, que serait-il s'il venait au monde? C'est à faire frémir. Vois-tu le fils du corsaire, continuant son père? Il mourait sur l'échafaud après t'avoir fait mourir de chagrin et peut-être même t'avoir assassiné. Il faut penser à ça, ma chérie, quand tu réfléchiras à ce que je t'ai dit. Marichette hésita un moment avant de répondre, puis d'une voix qui s'affermissait à mesure qu'elle parlait, « J'y réfléchis, et puisque vous revenez sur ce sujet, je dois vous dire que j'accepterai mon malheur jusqu'au bout. C'est une résolution que rien ne changera. »« Quelle lâche créature tu es !» s'écria Célanée. « Les voilà tes résolutions, celles de la lâcheté et de l'égoïsme. » Et pendant 10 minutes, elle vomit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Mais c'était là un soulagement platonique. Ce qu'elle disait ne changerait pas la situation, il n'y avait rien à tirer de l'idiote, cela n'était que trop certain. Elle le mettrait au monde, l'enfant de l'infâme corsaire. Jusque-là, elle s'était bien gardée de parler à son mari de la grossesse probable de Marichette. Puisque cette grossesse pouvait disparaître, il importait que personne ne la connût. Mais quand cette incroyable lâcheté s'était affirmée d'une façon formelle qui détruisait sa combinaison, elle n'avait plus eu de raison de se taire, et elle en avait eu au contraire pour faire connaître la vérité. Ne fallait-il pas maintenant préparer le procès? Au premier mot de sa femme, Sylvain avait répondu par son exclamation ordinaire « Est-ce possible ? C'est assez probable pour que tu n'éprouves pas cet étonnement. Tu te trompes peut-être. » Elle avait démontré qu'elle ne pouvait pas se tromper. Sylvain était resté accablé, répétant « Est-ce possible, la pauvre petite ? Tu ne trouves que cela à dire ? Que veux-tu que je dise ? Tu ne penses pas à maudire ton misérable cousin ? Je ne pense qu'à elle. N'est-elle pas assez à plaindre, la malheureuse, pour qu'on soit bouleversé, à son âge ? Quand tu la plaindras, quand tu gémiras, cela ne changera pas les choses. » « C'est vrai, il faut s'occuper d'elle, mais je suis si surpris, si troublé, si désolé. Qu'est-ce que nous allons faire ?» C'était là le mot ordinaire de Sylvain quand il était embarrassé et Célanée l'attendait. Mais elle se garda bien de répondre, car elle jugeait plus habile de laisser son mari trouver lui-même ce qu'elle voulait. S'il n'y venait pas assez vite, elle le ferait arriver en le poussant un peu. « Je te le demande, » dit-elle. « Elle sait qu'elle est enceinte. Si elle ne le savait, comment le saurais-je moi-même ? Elle est si innocente. Il a bien fallu l'interroger. Pauvre petite, quelle honte pour elle. Heureusement, tu as la main douce. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle voudrait mourir. Est-ce horrible ? Moi, je dis, est-ce ignoble ? Il n'a donc rien dans le cœur, ce misérable-là. Une enfant sans sang. Ni tendresse, ni pitié, ni honneur, rien. Ce n'était pas de Belloc que Sylvain trouvait à propos de parler, c'était de Marichette. Qu'est-ce que tu lui as dit pour la consoler? Que veux-tu qu'on dise? Connais-tu des paroles pour consoler d'un pareil malheur? Il faut faire quelque chose pour elle. Elle ne répondit pas et l'examina pendant qu'il cherchait. « Il me semble, dit-il après un moment de réflexion, que la première chose à faire, c'est de lui épargner la honte de son état. » Célanée n'avait point eu cette idée, et même ce qu'elle voulait aurait présentement un résultat contraire à celui que cherchait son mari. Mais elle ne se livra point. Il me semble que si elle quittait le pays...
Où irait-elle?
Je ne sais pas, à Paris, n'importe où, à Rouen, à Caen, dans une grande ville où nous l'installerions, où elle pourrait se cacher, où elle accoucherait sans que personne n'en sût rien, et où nous pourrions placer son enfant.
J'ai eu cette idée.
Eh bien, il faut l'exécuter. Puisqu'elle t'est venue à l'esprit, c'est qu'elle est bonne.
Elle paraît bonne au premier abord quand on ne pense qu'à la honte.
Qu'a-t-elle de mauvais?
Ce n'est pas pour elle-même qu'elle est impraticable, c'est par l'état de Marichette.
Comment l'état de Marichette? C'est justement cet état qui exige son éloignement.
Je veux dire son état moral.
Il la regarda sans comprendre et avec la tactique qui lui était habituelle, elle prit une pause pour laisser deviner ce qu'elle voulait dire.
Je t'ai expliqué que cette pauvre petite est au désespoir et qu'elle parle de mourir. Ce ne sont pas là des paroles en l'air. Avec un caractère comme le sien, concentré, résolu, tout est possible. Elle a été assez malheureuse pour ne pas tenir à la vie.
Hélas, qu'a-t-elle eu de bon, la pauvre petite ?
Les quelques jours qu'elle a passés près de nous, ton affection, ma tendresse, l'amitié des enfants, voilà ce qu'elle a eu de bon depuis la mort de sa mère. Et encore, n'était-ce pas un bonheur parfait, puisqu'il était empoisonné par le souvenir de ta canaille de cousin et enfiévré par la peur de ce qui se réalise. Mais enfin, pour elle, c'était beaucoup d'avoir la tranquillité assurée, le repos et, plus encore, la tendresse qui l'enveloppait. On n'est jamais tout à fait malheureux quand on se sent aimé et qu'on peut partager sa douleur avec des cœurs amis.
C'est bien vrai.
Si nous mettons ton idée et la mienne à exécution, si nous l'envoyons à Caen ou à Rouen, car à Paris, elle serait exposée à rencontrer quelques amis d'enfance ou des connaissances qui pourraient parler, enfin, si nous nous séparons d'elle, n'est-ce pas lui supprimer tout ce qui la rattache à la vie? Ton affection, ma tendresse, l'amitié des enfants, ce qu'elle a de bon précisément.
Il réfléchit longuement.
Je n'avais pas pensé à cela, dit-il enfin.
Ni moi non plus, je n'y avais pas réfléchi quand cette idée m'est venue.
C'était si naturel de vouloir lui éviter la honte de sa grossesse que je n'avais vu que cela. C'est ainsi qu'on agit avec une jeune fille qui est dans la situation ordinaire. Mais Marichette est justement dans une situation extraordinaire. Malheureuse comme elle l'est, que fera-t-elle dans la solitude et l'isolement, poussée par le désespoir et pouvant se dire, avec une apparence de raison, que nous l'avons mise à la porte?
Elle hésita avec un mouvement d'épouvante et d'horreur.
Si elle se tuait?
La malheureuse!
Mets-toi à sa place, enceinte, déshonorée, bientôt mère d'un enfant dont le père est un monstre, abandonnée par sa famille, toute seule dans une pauvre chambre, sans personne pour la soutenir ou la réconforter. Si jamais le suicide a été une délivrance, si jamais il s'est imposé, n'est-ce pas dans cette circonstance?
Mais alors, que faire? Que faire? Interrompit-il épouvanté.
Ils restèrent assez longtemps, se regardant, Sylvain cherchant dans les yeux de sa femme et n'y trouvant qu'une désolation désespérée.
Tu ne dis rien? Demanda-t-il à la fin.
Que veux-tu que je te dise? Je suis anéantie.
Toi, si forte, si intelligente.
On n'a ni force ni intelligence quand le cœur est pris et le mien est pris. Pauvre petite.
Il ne faut pas s'abandonner, dit-il avec énergie. Il faut chercher, il faut trouver, il faut la sauver.
Il faut et comment?
Je n'en sais rien, mais avant tout, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle quitte la maison.
Tu veux...
Je te demande si tu veux qu'elle se tue.
Cela, non.
Eh bien, alors, il ne faut pas qu'elle puisse se croire abandonnée. Comme tu l'as si bien dit, on n'est jamais malheureux quand on se sent aimé. Nous aurons tant de tendresse pour elle qu'elle ne pourra pas se sentir malheureuse.
Tu peux compter sur moi.
J'en suis sûre. Sans doute, il nous sera impossible de cacher sa grossesse et c'est là ce qu'il y a de terrible à la garder.
Cela serait surtout terrible si cette grossesse résultait de son inconduite. Mais qui pourra penser à accuser une pauvre enfant victime d'un crime commis par celui-là même qui devait la protéger? Nous la soignerons, nous la consolerons, nous élèverons son enfant. Pour cela aussi, tu peux compter sur moi. Cependant, il me semble que si en agissant ainsi nous faisons notre devoir envers Marichette, nous ne le faisons pas tout entier envers son enfant.
En quoi donc ?
Nous ne prendrons pas une part de ce que nous laisserons à nos enfants pour la lui donner, n'est-ce pas ?
Il n'est pas question de cela.
C'est que, justement, si nous acceptons la charge de cet enfant, ce à quoi je suis toute disposée, nous devons la prendre tout entière, non seulement dans le présent, mais encore dans l'avenir. C'est ainsi que s'impose ce procès dont je t'avais parlé et que tu as repoussé. Mais maintenant, tu dois comprendre que, quand il nous demandera ce que nous avons fait pour lui assurer le nom ou la fortune de son père, nous devons pouvoir lui répondre.
Plus tard, nous verrons. Ce n'est pas là ce qui presse. Nous en reparlerons.